commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette discussion hebdomadaire que nous allons conduire avec Bruno Tertrais. Bruno Tertrais qui est spécialiste de géopolitique et qui s'occupe évidemment de tout ce qui nous préoccupe, très exactement, puisque nous avons aujourd'hui au menu à la fois la conférence de presse traditionnelle de Vladimir Poutine, nous allons voir en quoi elle était importante, mais aussi le sommet européen qui a décidé finalement d'ouvrir la phase de discussion en vue de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, et puis venu d'outre-Atlantique, un durcissement assez visible et même de plus en plus sévère de Joe Biden, le président américain, vis-à-vis du comportement de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Voilà un petit peu notre menu d'aujourd'hui. Bonjour Bruno, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Donc on va peut-être avec vous, Bruno, commencer par la prise de position de Vladimir Poutine hier. Rappeler simplement que il a reformulé ses buts de guerre en Ukraine, en nous disant qu'il cherchait toujours à dénazifier l'Ukraine et à obtenir sa démilitarisation. Dénazifier, ça veut dire changer le gouvernement ukrainien, c'est-à-dire remplacer l'équipe en place par une équipe qui lui soit plus favorable, d'une part. Et démilitariser, ça voudrait dire transformer l'Ukraine en pays neutre et en pays à nouveau satellite de la Fédération de Russie. C'est bien cela qu'il faut comprendre, Bruno Tertrais.
Oh oui, je crois que vous avez raison, c'est exactement cela. Mais en revanche, je ne suis pas tout à fait certain que Vladimir Poutine ait véritablement redéfini les buts de guerre de l'opération spéciale, puisque très précisément, ce sont les mêmes buts de guerre qui avaient été annoncés dès février 2022. Donc ce qui est frappant, c'est qu'il reprend finalement les termes mêmes de ceux de l'annonce du début de cette opération pour nous dire que rien n'a changé, malgré les difficultés de l'armée russe. On parlera également, bien sûr, des difficultés de l'armée ukrainienne, mais rien n'a changé. Les intentions de Poutine sont exactement les mêmes. Cela veut dire aussi que, en creux, il n'y a pas de négociation possible aujourd'hui, puisque naturellement, la dénazification entre guillemets et la démilitarisation, ce sont absolument pas des choses négociables pour les Ukrainiens.
Jean-Claude.
Oui, et c'est, si j'ose dire, il y a comme une espèce de roublardise naïve ou grossière, comme on voudra. C'est-à-dire que il part de sa position de départ, il ne change rien. Je vois ici ou là que des gens disent, ça veut dire qu'il veut qu'on accorde la Crimée, qu'on accorde le Donbass, etc. Pas du tout. Il a des objectifs globaux. Il les appuie sur l'idée que l'Ukraine est incapable, qu'elle est très faible. Il utilise l'expression, il dit « elle vit de cadeaux ». Il dit « l'Ukraine ne produit rien, l'Ukraine vit de cadeaux, l'Ouest commence à s'en rendre compte et donc l'Ouest va cesser ». Et d'autre part, il fait même un parallèle avec la guerre au Moyen-Orient, la guerre contre le Hamas. Il dit « à la différence du Hamas, de Tsahal, nous menons des opérations propres ». C'est-à-dire que ce qu'il appelle, il ne dit pas la guerre, il dit l'opération militaire spéciale. Il dit l'opération militaire spéciale ne fait pas de pertes civiles, ce qui est un gigantesque mensonge, parce que une grande partie de l'activité militaire des Russes consiste à bombarder les civils ukrainiens. Et donc, il y a mon impression, je ne sais pas ce qu'en pense Bruno, c'est que tout simplement, il attend l'élection américaine. Il attend l'élection américaine et il ne varie pas d'un pouce et il s'adresse à son propre public, il s'adresse à la Russie puisqu'il explique que le taux de croissance russe va démarrer, que les difficultés économiques sont surmontées, que les sanctions n'ont aucun effet. Et donc c'est un message d'optimisme et d'attente avec une espèce de grossièreté brutale, si vous voulez, très étrange. Il s'adresse uniquement, je pense, au public russe.
Bruno Tertrais.
Oui, je crois qu'il s'adresse, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-Claude Casanova, mais je pense qu'il s'adresse également, de manière implicite au moins, à tous ceux qui relancent périodiquement l'idée d'une négociation entre la Russie et l'Ukraine, d'une sorte de compromis. Au vu de la stabilité relative du front depuis plusieurs mois maintenant et du relatif échec de la contre-offensive ukrainienne, pour moi, c'est aussi un message à tous ceux qui proposent des négociations. Monsieur Poutine n'est pas intéressé par la négociation. C'est la même chose qu'il y a 6 mois, il y a 1 an ou il y a 2 ans. Et vous avez raison de le dire, d'une certaine manière, plus c'est gros, mieux ça passe avec Poutine. Alors, on sait que son audience est essentiellement national, mais cette comparaison entre Israël et la Russie est évidemment totalement fausse. Il y a d'ailleurs une sorte de grand malentendu dans l'opinion internationale, si on élargit un tout petit peu le débat. Il y a ceux qui considèrent qu'en gros, Israël, c'est l'Ukraine, un pays qui a été agressé face à des forces qui tuent délibérément des civils, et il y a des pays qui considèrent que Israël, c'est la Russie, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un pays qui procède à des destructions majeures sans égard pour les civils, voire en les ciblant délibérément. Je presse de dire que, à mon sens, quoi que l'on puisse penser de l'extrême brutalité de la manière avec laquelle l'armée israélienne s'en prend à la bande de Gaza, il y a tout de même des différences fondamentales, d'abord dans l'origine du conflit, qui a été agressé, dans un cas c'est l'Ukraine et dans l'autre c'est Israël, et une autre différence c'est le fait que s'il bombarde, je le répète, délibérément des populations civiles, alors que jusqu'à preuve du contraire, et même si elle s'y prend de manière très brutale, ça elle ne le fait pas.
Alors ça, c'est évidemment un des sujets qui nous amène assez vite aux États-Unis, parce qu'on voit que l'attitude du président Biden est en train de changer, sans doute sous la pression d'une partie de l'opinion américaine, mais aussi du spectacle même qui est donné de Gaza. C'est vrai que Gaza va prendre peut-être s'inscrire dans la longue liste des cités rayées de la carte, comme le fut Grozny, comme l'a été Mariupol, comme le serait maintenant Gaza. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui va peser sur le futur d'Israël, au point d'inquiéter donc très fortement Joe Biden, qui demande avec de plus en plus de fermeté à Israël de changer d'attitude, sans non plus que l'on puisse penser qu'il va être entendu, parce que il a quand même affaire, nous avons affaire à un gouvernement Netanyahou qui est un gouvernement avec l'extrême droite et avec qui a des idées qui sont d'ailleurs catégoriquement inverses de celles que met en avant Joe Biden, puisque de façon très catégorique, le Premier ministre israélien, mais aussi ses représentants, ont dit définitivement non à l'idée, à la perspective de 2 États. Bruno Tertrais, est-ce que cette attitude américaine, nouvelle, peut infléchir, si peu que ce soit, la façon dont Israël compte continuer de répondre au Hamas, Bruno Tertrais?
Oui, peut-être, dans la mesure où le seul pays qui peut avoir une certaine influence, y compris d'ailleurs parce qu'il leur fournit des armes, c'est sur Israël, c'est effectivement les États-Unis. Je crois qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles M. Biden est maintenant de plus en plus insistant dans ses demandes de restriction des sur Gaza. Il y a bien sûr l'inquiétude sur l'avenir de la région, inquiétude relayée auprès des États-Unis par les pays arabes. Il y a bien sûr l'aspect tout simplement moral, la multiplication des images absolument épouvantables de Gaza, même si ce ne sont pas, encore une fois, des populations civiles délibérément visées, ne peut que choquer un président américain ou toute autre personne normalement constituée. Et puis il y a une troisième raison sans doute, mais je la mets vraiment qu'en dernier, parce que je ne crois pas que ce soit central aujourd'hui, c'est l'inquiétude du camp démocrate pour la manière dont les jeunes vont se mobiliser pour l'élection présidentielle. Certains stratèges du camp démocrate s'inquiètent beaucoup sur la perte que pourrait représenter une partie de l'électorat de démocrates, notamment les plus à gauche, notamment les jeunes, qui pourraient se détourner de Joe Biden au moment de l'élection. Cela dit, je pense que l'analogie qui a été faite à l'instant par Jean-Marie entre Grozny et Gaza me semble totalement excessive. À Gaza City, au nord, il y a des quartiers entiers qui ont été rasés, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec Grozny, la capitale de la Tchétchénie, qui avait, elle, été totalement rasée, sans aucun égard pour les populations civiles à l'époque. Là où l'inquiétude américaine est sans doute justifiée, c'est que selon certaines sources citées par les médias américains, l'armée israélienne emploierait près de la moitié de bombes dites des bombes non intelligentes. Alors, on peut discuter de savoir si une bombe peut être intelligente, mais des munitions non guidées, c'est-à-dire très peu précises. Et donc, cette inquiétude américaine semble fondée aussi sur ce qu'il constate dans l'emploi des munitions qui, même si elles ciblent des objectifs terroristes, risquent encore plus de faire des victimes civiles que les munitions dites intelligentes ou précises.
Jean-Claude ?
Oui, je crois qu'il y a un problème de la stratégie israélienne qui, manifestement, a comme étape, une première étape qui est une stratégie massive, de façon à pouvoir avancer, être présent sur le territoire sans être canardé de la moindre hauteur, et les Américains, et auquel devra succéder une stratégie précise, c'est-à-dire repérer les dirigeants, les militants du Hamas, les caches d'armes, les corridors souterrains, etc. Et le chef d'état-major américain est sur place en Israël, le conseiller à la sécurité y est allé. Manifestement, les États-Unis poussent vers une accélération du passage de la stratégie massive à la stratégie précise, où ce sont au fond des combattants d'élite qui vont dans une espèce de corps à corps chercher les dirigeants et les militants du Hamas. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie rupture israélo-américaine. On voit bien la tension que mettent les Américains dans le suivi de la stratégie israélienne. Et d'autre part, le cabinet de guerre israélien est un cabinet essentiellement d'anciens militaires et de militaires. Et donc, je pense qu'il y a un dialogue entre l'état-major américain et l'état-major israélien pour la poursuite du combat. Mais alors, en politique intérieure américaine, il y a évidemment ce que dit Bruno, c'est-à-dire la crainte de l'évolution d'une fraction jeune, ce qu'on voit dans les universités, d'une fraction jeune des démocrates, et puis aussi la compétition que va mener Trump, parce que Trump sur le problème ukrainien se dissocie de Biden, mais sur le problème israélien, il est, lui, dans les positions les plus extrêmes. Et donc, Biden doit aussi tenir compte de cela s'il affronte Trump.
Bruno Tertrais.
Tout à fait d'accord avec Jean Casanova. Donald Trump est considéré comme un ami, voire un allié indéfectible d'Israël. Alors je précise qu'à mon sens, Donald Trump se fiche totalement du peuple juif, et d'ailleurs qu'il a assez peu de connaissances de la culture juive et d'Israël. Mais il est considéré comme un héros en Israël, puisque c'est celui qui a franchi le pas, celui qui a décidé de mettre en œuvre le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, ce qu'il a fait pendant son mandat, quelque chose qui avait été demandé par le Congrès depuis des décennies, mais qu'aucun président n'avait osé faire. Et en cela, il a la reconnaissance éternelle, si j'ose dire, non seulement du peuple israélien, non seulement des juifs américains, mais aussi et peut-être surtout des évangéliques américains qui représentent encore quelques 30% de la population adulte, 30% de l'électorat républicain, et cette population-là, elle est totalement acquise à Donald Trump. Il ne faut pas méconnaître l'importance de cette décision symbolique dans le soutien d'une partie de la population américaine à Donald Trump. Mais encore une fois, je le répète, à mon sens, il se fiche totalement du peuple juif, et au point que certains d'ailleurs qui le connaissent bien disent qu'il est en fait probablement et secrètement un antisémite. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais on est vraiment dans une stratégie politique bien comprise qui l'amènera certainement à affirmer son soutien plein et entier à Israël pendant la campagne.
Bruno, Jean-Claude Casanova tout à l'heure évoquait le fait que la vraie stratégie de Poutine, c'est évidemment d'attendre l'élection de Donald Trump pour reprendre les choses en main. Et donc on s'aperçoit qu'au fond, il y a un trio infernal un petit peu, c'est-à-dire Poutine, Netanyahou et Trump ont un peu destin lié, ont un peu vision commune, et en tout cas quelque chose qui les lie tous les trois. Est-ce abusif de présenter les choses comme cela, Bruno Tertrais ?
Ça n'est pas totalement abusif, parce que ce sont effectivement trois hommes forts, trois nationalistes qui auront beaucoup marqué la fin des années 2010 et le début des années 2020. En revanche, il est intéressant de voir que M. Poutine a pris ses distances vis-à-vis de Benjamin Netanyahou parce que tout simplement, il veut se présenter en héros du Sud global, en héros des peuples opprimés, en chantre de l'anticolonialisme comme l'était l'Union soviétique à l'époque, et que du coup il s'est un petit peu éloigné de, enfin son soutien à Benjamin Netanyahou, pourtant un homme qu'il présentait comme son ami pendant très longtemps, c'est vrai qu'il est un petit peu moins proche de lui aujourd'hui, alors qu'en revanche du côté de Trump c'est très clair, le soutien à Netanyahou est plein et entier. Nous verrons bien évidemment quel sera le destin de ces trois hommes dans les mois qui viennent. Sur l'élection présidentielle russe de 2024, il n'y a pas beaucoup d'incertitudes. Il y en a davantage sur le sort de M. Netanyahou après la guerre de Gaza. Et il y a bien sûr une incertitude majeure sur le résultat de l'élection présidentielle américaine. Donc, il n'est pas certain que ces trois hommes seront au pouvoir en 2025.
Alors, dans cette perspective, il y a aussi cette semaine un événement qui est intervenu, qui est la prise de position des Européens en faveur de l'ouverture d'un chemin d'accession de l'Ukraine à l'Union européenne. On est dans un contexte où, à la fois, on avait parlé un moment de fatigue des opinions, et au-delà de la fatigue aujourd'hui, s'est installée une sorte de petite musique qui laisse penser que, au fond, l'Ukraine n'est pas loin de perdre la guerre et pourrait perdre la guerre, faute pour les soutiens de l'Ukraine d'avoir été suffisamment rapide dans l'armement sophistiqué de l'Ukraine, et donc faute de cet armement, l'Ukraine est obligée donc le front est gelé et l'Ukraine est aujourd'hui sur la défensive au point que on voit réapparaître ici et là des prises de position disant mais de toute façon il vaut mieux discuter avec la Russie, ainsi de suite. Comment regardez-vous cet affaiblissement, peut-être momentané, de l'Ukraine? Momentané en ce sens que les avions qui devaient arriver vont finir par arriver, les armes sophistiquées qui devaient arriver vont finir par arriver. Est-ce que à nouveau la donne militaire pourra changer, ou bien est-ce que on est sur une pente glissante qui ferait que l'Ukraine n'arrivera pas à redresser la situation, Bruno Tertrais?
L'histoire des conflits militaires nous enseigne que des surprises peuvent intervenir. Ce n'est pas parce que le front est quasiment gelé aujourd'hui, il ne l'est pas totalement d'ailleurs. Il y a des actions ici et là, y compris en Crimée ou dans la profondeur du territoire russe, par des soutiens de l'Ukraine. Mais nous pouvons avoir des surprises en 2024. Je ne crois pas qu'aujourd'hui la question soit celle d'une défaite de l'Ukraine, mais plutôt celle de l'impossibilité pour l'Ukraine de reprendre le terrain conquis. Mais je crois que la possibilité d'une victoire russe est encore plus improbable, ou bien moins probable en tout cas, que celle d'une victoire ukrainienne. Et c'est cela qui est en jeu. Est-ce que le front va continuer à être aussi peu mouvant qu'il l'a été ces derniers mois, tout au long de l'année 2024? Personnellement, je suis assez confiant dans la capacité des Ukrainiens à rétablir la situation face aux pertes absolument colossales que la Russie continue à subir. Derrière la contre-offensive perdue, ou en tout cas non couronnée de succès de l'Ukraine, il y a des pertes phénoménales du côté russe, notamment en matériel. Et on a beau avoir du côté de la Russie une grande réserve, en tout cas sur le papier, de personnel, s'il n'y a pas de matériel, ceux-ci ne pourront pas grand-chose. Tout ceci pour dire que la petite musique que vous décrivez, celle qui reparle de négociations, encore une fois, elle n'est pas pertinente pour les Ukrainiens, mais surtout, Vladimir Poutine l'a encore rappelé, elle n'est pas pertinente non plus pour la Russie. Il n'est pas question pour la Russie de négocier. Nous verrons fin 2024 si le scénario de Trump élu président des États-Unis se réalisait, dans une telle hypothèse, on pourrait imaginer qu'une Ukraine très affaiblie sur le plan militaire pourrait effectivement accepter une sorte de cessez-le-feu général, sans pour autant renoncer, bien sûr, sur le long terme, à reconquérir son territoire. Dans cette perspective, le signal donné par les Européens hier est extrêmement important. C'est un véritable boost au moral ukrainien. Personne n'était certain qu'il y aurait ce consensus européen pour dire l'Ukraine fera partie de l'Union européenne, comme la Moldavie d'ailleurs, un autre pays de l'ex l'Union soviétique et peut-être un jour la Géorgie. Et donc, face à la résolution affichée par Vladimir Poutine dans sa conférence de presse, je crois qu'il est très important de voir que l'Europe a affiché tout autant de résolutions. Il n'y a pas de fatigue de l'Ukraine au sein du leadership européen.
Jean-Claude Casanova.
La décision, le Conseil européen, de ce point de vue-là, est très favorable à la défense de l'Ukraine, puisque d'une part, on décide 50 milliards d'euros d'aide, et parallèlement, le budget de la défense vient de passer au Congrès, et donc la situation de Biden, à ce point de vue-là, s'est améliorée dans ses rapports avec le Congrès pour l'effort, pour les dépenses militaires. Et d'autre part, le seul allié possible de Poutine était Orban, et Orban ne s'est pas opposé, sans doute dans l'idée de monnayer sa neutralité pour obtenir lui-même les subventions internes à l'Union européenne, mais ce que l'on craignait, c'était un blocage de Orban, considéré comme un allié des Russes. Malgré tout, la Hongrie a suffisamment de souvenirs historiques pour ne pas être un allié inconditionnel de la Russie, et d'autre part, Orban est moins déterminé que l'on ne croyait et a accepté l'accord qui a été pris. Donc le processus d'adhésion de l'Ukraine, qui va durer une dizaine d'années, est engagé, mais il fournit à l'Ukraine le contraire de ce que demande Poutine, parce que une Ukraine appartenant à l'Union européenne ou susceptible d'entrer dans l'Union européenne n'est pas une Ukraine dénazifiée, neutralisée et désarmée.
Alors, il faut quand même préciser, Jean-Claude, que, en effet, Viktor Orban s'est abstenu, n'était pas en séance au moment du vote sur l'adhésion, le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc, il a laissé passer cela, en échange d'ailleurs du déblocage par l'Union de 10 milliards d'euros, qui était toujours sous le coude. Mais il a plutôt continué de bloquer le déblocage d'une nouvelle aide financière à l'Ukraine. Donc, c'est reporté de quelques semaines. Donc le report ne sera que de quelques semaines, mais là il a quand même bloqué, donc il est un fidèle petit soldat, d'autres auraient dit petit télégraphiste de Vladimir Poutine. Bruno Tertrais, comment voyez-vous cela?
Oui, l'essentiel, encore une fois, le signal politique de l'adhésion future de l'Ukraine à l'Union européenne était donné. Le fait que Orban bloque l'aide commune de l'Union européenne à l'Ukraine pourra être contournée par des procédures budgétaires créatives et imaginatives. C'était un scénario qui était déjà envisagé. Encore une fois, ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que un trublion pro-Kremlin comme Viktor Orban ne peut pas bloquer le train européen. Le train européen est parti. C'est ça l'essentiel.
L'essentiel, c'est aussi que Viktor Orban représente, au fond, la doctrine commune des extrêmes droites en Europe. Je veux dire, et c'est en cela qu'il faut y faire attention, parce que ce qu'il dit à la fois sur la démocratie libérale, mais aussi sur l'attitude vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis de l'OTAN, c'est quand même quelque chose qui est important et qui inspire tous les mouvements d'extrême droite en Europe. Je pense que c'est sous cet angle-là aussi qu'il faut regarder les choses. Un mot, Bruno Tertrais, là-dessus?
Oui, c'est vrai, on peut imaginer un scénario du pire dans lequel, d'ici quelques années, entre Poutine qui serait encore là, Orban qui serait encore là, Marine Le Pen qui serait au pouvoir et Donald Trump aux États-Unis, le soutien américain et européen à cette Ukraine devienne plus compliqué à gérer. Nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, les pessimistes ont été démentis et après plus de deux ans de guerre, le signal est extrêmement fort et surtout, cela veut dire que l'Ukraine confirme avec cette étape son choix européen, un choix qu'elle a déjà exprimé il y a bientôt 10 ans avec les événements d'Euromaïdan qui avaient été bien sûr suivi de l'annexion de la Crimée. Et ce choix stratégique de l'Ukraine est extrêmement important pour l'avenir de tout le continent et il se fait au détriment de la Russie de Poutine. L'Ukraine a décidé de rompre les amarres et ça sera toujours insupportable pour Vladimir Poutine qui ne renoncera jamais, à mon sens, à affaiblir, à défaut de reconquérir, ce pays.
Et il faut, ça nous permet de rappeler aussi que le casus belli avec Poutine, ça a été évidemment la conversion de l'Ukraine à la démocratie, donc à l'Europe, et donc c'est cela que Vladimir Poutine veut effacer ou voudrait effacer. Merci en tout cas Bruno Tertrais de nous avoir permis aujourd'hui ce rapide tour d'horizon d'une actualité extrêmement chargée, extrêmement lourde. Bruno Tertrais, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et que vous êtes l'auteur de La Guerre des Mondes, qui est édité aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous donc de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci Bruno.
Merci.
Et à très bientôt. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Et Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires. Préparez la